Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth. Restez informés de toute notre actualité, notamment celle concernant la proposition de vous consacrer ou de renouveler votre consécration au cœur immaculé de Marie, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 22 août à la crypte de la cathédrale de Fourvière à Lyon. Je voudrais donner une précision. Lors de la dernière mission avec le Père Prévost le 29 juin, pendant laquelle nous avons eu un problème technique, il m'avait semblé entendre que nous pouvions avoir la messe célébrée par l'évêque. C'était un malentendu à cause de cette connexion Internet un peu pitoyable. Donc je vous prie de m'en excuser. Ce sera le Père Prévost qui célébrera très sans doute, accompagné de ses confrères, de sa congrégation, la messe. Alors vous êtes déjà une soixantaine à m'avoir envoyé votre nom et prénom pour que je le dépose au pied de la Sainte Vierge ce jour-là, comme signe de votre engagement auprès de notre Mère du Ciel. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site mariedenazareth.com. Dans la page Actualité, nous vous y attendons nombreux. Alors, en cet été où nous avons habituellement plus de temps pour la lecture et pousser nos adolescents à lire des choses édifiantes, je vous invite à nous écouter pour vous présenter aujourd'hui ce tout jeune homme, Carlo Acutis. Bienheureux, canonisé le 7 septembre prochain par le pape Léon XIV. Et c'est avec joie que j'accueille Patrizia Cataneo qui a publié aux éditions Résiac « Saint Carlo Acutis, l'influenceur de Dieu ». Bonjour Patrizia.
Bonjour Marie-France et merci de m'avoir invitée à votre émission.
C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de vous être rendue disponible pour parler de ce saint que je croyais connaître, mais que j'ai vraiment découvert pleinement grâce à la lecture de votre livre. Vous savez, chers auditeurs, que nous accueillons une dame formidable, car Patrizia est un écrivain qui fait le bien. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine, car nous évoquerons ensemble l'infestation diabolique dans nos vies et tout ce que vous organisez, Patrizia, avec des prêtres exorcistes. Alors, vous êtes écrivain catholique, journaliste italienne, spécialisée en spiritualité, hagiographie et de formation ignatienne. Vous avez fait connaître Saint Charbel au public italien à une époque où il était encore méconnu. Je rajouterai que vous avez été très proche du père Cipriano de Meo, qui était un ami de Padre Pio avec qui vous avez beaucoup travaillé et qui était le doyen des exorcistes italiens et postulateur de la cause de canonisation du père Matteo Dagnone, un prêtre exorciste du XVIIe siècle, proclamé serviteur de Dieu par l'Église catholique et dont nous parlerons aussi la fois prochaine. Alors, sans plus tarder, Patrizia, nous allons parler de cet enfant précoce qui était Carlo Acutis. Il a tout fait très jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa petite enfance, s'il vous plaît?
Oui, alors Carlo Acutis était un enfant précoce. Il est né à Londres en 1991, où son père travaillait à l'époque, et il a été baptisé là-bas avant que la famille ne retourne vivre à Milan, ici en Italie. Très tôt, Carlo a montré des dons étonnants. À 5 mois, il parlait déjà.
Non, alors ça, c'est quand même incroyable. À 5 ans, il parlait.
Exact.
À cinq mois.
À 5 mois, mais son premier mot, il l'a prononcé à 3 mois, et son premier mot a été papa. Et à 5 mois, il parlait déjà, c'était incroyable. Il lisait à 4 ans et demi, et à 3 ans et demi, il demandait à sa maman d'entrer dans les églises pour saluer Jésus et rester devant le tabernacle, et c'était difficile de le faire sortir. Et quand la maman l'accompagnait dans les parcs de Milan, il cueillait les fleurs pour les offrir à la Vierge Marie. Et c'est étonnant parce que sa maman ni son papa n'étaient pas pratiquants.
Ah oui.
Et il était naturellement porté vers la foi. Et il faut dire qu'il avait une nourrice polonaise qui lui a appris à réciter, par exemple, « Je vous salue Marie », les prières, le chapelet. Et il avait un caractère vivant, parfois un peu trop bavard. Il était bavard à la maternelle, on le reprochait un peu à l'école, et parce qu'il était exubérant. Et il a décidé très jeune de vivre l'Évangile, qui c'était sa raison de vie. À 7 ans, il a fait sa première communion avec une autorisation spéciale, parce que à l'époque, en Italie, on la faisait assise à 7 ans. Mais dernièrement, on l'a fait à 10 ans. Donc,
ah bon?
à 7 ans, il a eu une autorisation spéciale parce qu'il avait envie d'être en communion avec Jésus. Et il est devenu catéchiste à 11 ans. Et après la communion, la première communion, il a commencé à aller à la messe tous les jours, à prier le rosaire tous les jours et faire de l'adoration eucharistique tous les jours, quelques minutes avant ou après la messe. Et il voulait éviter même les petits péchés, les péchés véniels. Il était aussi passionné d'informatique, donc il était un petit génie parce qu'à 6 ans, il s'habillait en petite informaticienne chez lui. Et à 9 ans, il a créé des programmes tout seul en lisant des livres universitaires. Donc, tout le monde était étonné. Mais sa maman, quand on lui demande de décrire Carlo, et elle le décrit comme un enfant comme les autres, mais qui mettait Jésus au centre de sa vie. C'est un peu le résumé de sa petite enfance.
Alors, Carlo, dites-vous, au départ, était un enfant turbulent, bavard, à l'école, assez difficile à gérer. Et puis, vous dites qu'il s'est dompté.
Oui.
Et en faisant son examen de conscience quotidien.
Exact.
Ça, c'est quand même étonnant. Comment faisait-il cet examen de conscience?
Il s'examinait ce qui s'était passé dans la journée, son comportement envers les parents, les professeurs et ses camarades. Et après, il se donnait des notes et dans un journal, un peu à la mode jésuite, disons, mais je ne sais pas s'il connaissait déjà ça quand il le faisait, parce qu'il était suivi par un père spirituel. Je ne sais pas si c'était son père spirituel qui lui avait appris cette méthode, disons, ignatienne, hein, de se donner des notes, de s'examiner, de faire l'examen de conscience tous les jours. Et il écrivait les points faibles où il devait s'améliorer. Par exemple, il écrivait qu'il était gourmand, donc il devait s'améliorer là-dessus, qu'il était turbulent, qu'il bavardait trop, ou parfois il écrivait aussi qu'il s'était distrait pendant l'adoration eucharistique. C'était un peu les points d'un jeûne vraiment pur. Et le but, son but, étonnamment, était qu'il ne voulait pas faire le purgatoire. Il voulait mourir sans faire le purgatoire et aller tout droit au paradis. Donc, son but était d'éliminer tout péché véniel afin d'aller tout droit voir Jésus.
C'est quand même incroyable de faire ça si jeune. Alors, vous avez eu la très bonne idée de mettre à la fin de votre livre différents tableaux. Où on voit effectivement les points sur lesquels on peut s'améliorer, donc inspiré de ce que faisait Carlo. J'ai trouvé ça très pédagogique. Et ce livre, je disais qu'il s'adressait aux jeunes, mais pas seulement finalement, parce qu'il avait une très grande maturité spirituelle très rapidement. Et donc, pour nous adultes, on est complètement concernés.
Exactement, exactement. Donc, comme je n'ai pas voulu écrire qu'une simple biographie de Carlo, mais un livre d'imitation de Carlo, alors j'ai pensé de rédiger des prières qu'on trouve à la fin du livre, et qui sont inspirées un peu à sa vie et à ses propos, et surtout le bulletin de notes inspiré de son habitude de s'examiner à la fin de la journée pour faire un travail sur soi. Bien sûr, ce n'est pas le même qu'il utilisait, mais pour faire un travail sur soi, son exemple, et progresser et plaire à Dieu. Et comme vous le dites, il n'est pas adressé qu'à des jeunes, mais aussi à nous, les adultes, moi en premier. Et pour progresser chaque jour vers une version meilleure de soi-même.
Alors, j'allais vous poser la question, parce que je les trouve très belles, ces prières à la fin du livre. Je me demandais qui les avait écrites, donc c'est à vous qu'on les doit.
Oui, c'est moi qui les ai écrites et je me suis... Alors, quand j'écris un livre, je me mets toujours à la place du lecteur. Qu'est-ce qui demande le lecteur? Qu'est-ce qui a besoin le lecteur? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et de faire? Et alors, j'ai créé une série de prières qui concernent un peu tous les aspects de la vie sur lesquels nous tous sommes un peu angoissés et auxquels demander à Dieu par l'intercession de Carlo l'aide et la protection surtout.
Alors, je les ai vus, donc prière pour la conversion d'une personne, la guérison du cœur, guérison d'un malade, prière pour son propre rétablissement, guérison de traumatisme, voilà, pardon, prendre une bonne décision, délivrance du diable, là on reconnaît votre autre casquette.
Je peux pas
Alors,
manquer.
une que j'ai trouvée très bien, prière pour un procès juste. Je
Oui.
crois que c'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est une très bonne idée.
Mais oui, vous savez qu'en Italie, la justice est un peu comme ci, comme ça. Et il y a, on assiste à beaucoup de procès injustes qu'après des années, on découvre qui étaient complètement trompés. Et alors, c'est, disons, un problème qui nous concerne beaucoup en Italie. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous protéger de ça.
Eh bien, écoutez, soyez-en remerciés. Alors,
Merci.
il a été accompagné par plusieurs prêtres, vous en citez quelques-uns, mais est-ce qu'il a eu le même prêtre qui l'a accompagné spirituellement dès son plus jeune âge, ou alors il avait plusieurs prêtres? Enfin, comment était-il accompagné?
Si, alors, dès son plus jeune âge, il a commencé à être accompagné par Don Elio Carrai, qui était appelé le Padre Pio de Bologne.
Alors pourquoi
C'est
est-ce qu'on l'appelait comme ça?
exact, parce que alors il avait les dons un peu comme Saint Padre Pio de lecture des cœurs. Il fallait pas lui parler, il savait déjà qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de la personne qu'il avait devant. Et sa maman, la maman de Carlo, quand elle s'est trouvée devant un fils qui lui posait des questions spirituelles auxquelles elle ne savait pas répondre, alors elle a consulté ce prêtre sur conseil d'une amie. Elle est allée le voir et quand elle s'est présentée devant lui, ce prêtre a lu dans son âme tous ses péchés et l'a amenée à faire une bonne confession parce qu'elle ne se confessait depuis son mariage. Elle avait été à l'église 3 fois pour la communion, la confirmation et le mariage, ce qu'elle raconte. Et alors, Don Elio Carrai a annoncé tout de suite à la maman de Carlo que son enfant devient très important pour l'Église. Mais elle pensait simplement prêtre, elle serait devenue prêtre, peut-être pape, pensait sa grand-mère. Voilà. Mais personne, exact, mais personne n'aurait jamais pensé qu'il serait mort si jeune et qu'il serait devenu un saint de l'Église catholique. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, le premier qui l'accompagnait jusqu'à la fin de ses jours a été Don Elio Carrai. Mais après, sur son chemin, il a rencontré le prêtre de sa paroisse, qu'au moment donné était Don Gianfranco, Monseigneur Gianfranco Poma, que j'ai connu aussi. Après, dans sa paroisse, il se confessait à un prêtre, surtout à un prêtre âgé, il se confessait souvent à un prêtre âgé, auquel je me suis aussi confessée, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans dans le quartier de Carlo Acutis. Quand il avait entre 10 ans et 13 ans. Donc, peut-être que je l'ai aussi croisé dans cette église où je fréquentais la messe tous les jours. Et je me souviens, mais je ne peux pas être sûre qu'il s'agissait de Carlo, d'un jeune dont je me souviens parce qu'il était pour son âge justement, qui fréquentait cette église. Mais je ne peux pas dire avec certitude s'il était lui parce que je n'aurais jamais pensé de croiser, disons, le chemin d'un saint à l'époque. Alors il se confessait à ce prêtre et ce qui m'a étonnée, là c'est une référence autobiographique. Chez ce prêtre, qu'après j'ai retrouvé dans les écrits de la maman de Carlo, c'est que ce prêtre m'avait étonnée la première fois que je me suis confessée, parce que la première chose qu'il te demandait au confessionnal, c'était qu'est-ce que tu as fait de bien depuis la dernière fois que tu t'es confessée. Et après, ni avant ni après dans ma vie, je n'ai jamais plus rencontré un confesseur qui me pose la question qu'est-ce que tu as fait de bien? Et ça réconforte avant de demander les péchés parce qu'il voulait équilibrer ce confesseur, parce que parfois on se plonge un peu dans la tristesse en voyant qu'on répète ses péchés à l'infini, mais lui, il nous faisait réfléchir aussi sur le bien que le Seigneur avait fait à travers nous. Et j'ai retrouvé quelques mots sur cette méthode, disons, dans le livre de la maman de Carlo. Donc, j'ai la certitude que je me suis confessée pendant 3 ans chez le même confesseur de Carlo et fréquentais la même église et la même messe. Après, il
Oui.
a eu aussi d'autres prêtres qui l'ont suivi. Au lycée, il y avait le recteur jésuite du lycée. Il avait des prêtres capucins qui aidaient les pauvres, qu'il a croisés sur son chemin, auxquels il se confessait aussi.
On va faire une petite pause de quelques secondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle, soutenir.radiocourtoisie.fr pour aider et faire des dons à Radio Courtoisie qui nous accueille très généreusement tous les dimanches à 17h30. Alors, nous parlions de ces prêtres, Patrizia Cattaneo, qui ont accompagné Carlo Acutis. Il y a une religieuse, une fois, dans la rue, qui a arrêté sa maman pour lui dire, elle aussi, que son fils serait quelqu'un d'important pour l'Église.
Exactement, c'est ce que sa maman raconte. Elle était étonnée, mais je le répète, elle croyait que simplement Carlo pourrait un jour devenir
Oui,
prêtre.
oui. Alors ça, vraiment, en lisant votre livre, j'étais quand même stupéfaite parce que je voyais combien finalement c'était le quotidien de cette maman qui se dit mon fils est précoce, mais en l'occurrence c'était davantage.
Exact.
J'ai une petite question qui ne concerne pas Carlo. Vous dites dans votre livre qu'à Milan, c'est le rite ambroisien qui est célébré.
Exact.
Pouvez-vous me présenter un peu ce rite parce qu'on ne le connaît pas. Je crois qu'il est exclusivement célébré à Milan ou dans la région.
Oui, exact. Dans le diocèse, c'est le rite ambroisien, comme le dit le nom, remonte à Saint Ambroise.
Oui.
Et la tradition catholique l'a gardé dans le diocèse de Milan. Et il y a ce rite diffère du rite romain. Et quand on va à la messe, on assiste à la messe dans une église de Milan, on reste un peu comme ça, stupéfié parce que, par exemple, le signe de paix, l'agneau de Dieu, le Gloria ne sont pas placés au même moment que dans la liturgie romaine. Mais il y a des petites différences. Il y a, par exemple, l'Annonciation, la fête de l'Annonciation de Saint-Joseph, une très belle fête le 16
Mars.
décembre qui ouvre la neuvaine de Noël. Et Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph est le saint du silence, qui est resté en silence, un peu
Oui.
comme Marie, mais encore plus que Marie. Et alors, l'introduction de la neuvaine de Noël est consacrée à Saint-Joseph, avec cette belle fête qui n'existe pas dans le calendrier romain. Après, il y a l'Avent, par exemple, dure 6 semaines, le
Oui.
carême commence plus tôt. Les vendredis du carême, aucune messe n'est célébrée, l'Eucharistie n'est pas distribuée. Donc, il y a, après, l'ostensoir, sauf exception, a une forme différente, non pas un soleil, mais une forme de temple. De petites différences parce que le Vatican a permis de garder cet ancien rite qui remonte à Saint Ambroise dans le diocèse de Milan. Donc, Carlo avait
C'est ça,
l'habitude.
oui.
Exact, de participer à la messe en rite ambroisien, mais aussi quand il était assis en vacances ou il voyageait beaucoup, aussi il avait l'habitude aussi à la messe en rite romain.
Alors, quel lien avait-il avec son ange gardien?
Ah, d'accord. Alors, il recommandait à tout le monde de prier souvent son ange gardien, de lui demander conseil. Et il avait un lien très fort avec son ange gardien et il le considérait son meilleur ami. Et il semblerait qu'il avait aussi des révélations divines de son ange gardien. Par exemple, son ange l'invitait toujours à mettre Dieu à la première place, pas moi, mais Dieu. Et c'est son ange gardien qui lui aurait suggéré cela et plusieurs autres choses dont nous ne connaissons pas tout.
Bien sûr. Alors, Carlo présente les quatre fins dernières de l'homme. Qu'est-ce qu'il
Si.
entend par là?
Et donc, Carlo, alors, je l'ai déjà dit que son but était d'éviter le
Oui.
purgatoire, hein, d'aller droit au ciel. Et donc, devant lui, toute action devait être centrée sur les quatre fins dernières de l'homme, c'est-à-dire les réalités ultimes de l'existence humaine, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Ces vérités fondamentales de notre foi ont malheureusement disparu un peu de nos catéchèses aujourd'hui. Mais c'était le centre de sa vie. Il ne faisait rien qui pouvait déplaire à Dieu. Et il était conscient que la mort nous attend tous et nous devrons être jugés. Et après, et c'est sur cette terre que nous décidons notre destin final, notre destination finale, l'enfer ou le paradis, à travers parfois le purgatoire.
Alors, beaucoup de personnes ont entendu parler de Carlo Acutis pour la première fois suite à l'exposition sur les miracles eucharistiques. Et alors, comment a-t-il eu cette intuition qu'il fallait faire quelque chose?
Alors, sa maman dit qu'en 2000, Carlo avait 9 ans, quand il a découvert le miracle de l'Anciano en Italie. Et ce miracle eucharistique, un jour au XVIIIe siècle, l'Anciano, un moine, alors qu'il célébrait la messe, fut assailli par une doute concernant la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie.
Eucharistie.
Et au moment de prononcer les paroles de la consécration sur le pain et le vin, il vit soudain sous ses yeux que le pain s'est transformé en chair et le vin en sang. Donc, il n'a plus aucun doute. Et alors, cette hostie se trouve à Lanciano, dans une église à Lanciano, et Carlo, à 9 ans, a visité en pèlerinage cette église où il a vu l'hostie. Et ça l'a bouleversé. À partir de là, il a commencé à rassembler des informations, des photos, des documents pour faire une expo numérique sur les miracles eucharistique dans le monde entier, qu'après il a transformé aussi en une exposition avec des panneaux qui ont fait le tour du monde. Et il voulait faire connaître le plus possible l'importance de l'Eucharistie parce que plus tard, à 11 ans, il a compris, quand il était catéchiste, que beaucoup d'enfants, mais aussi d'adultes, ne croient pas que Jésus est vraiment présent dans le pain et le vin de la messe consacrée. Alors, il a eu cette intuition à partir de l'Anciano, mais il a consacré toute sa vie à créer cette exposition eucharistique. Parce que pour lui, il était important de passer le message que l'hostie est le cœur même de Jésus. En effet, après, la science a aussi confirmé, en étudiant les cinq miracles eucharistiques, qu'ils sont tous du groupe sanguin
Avec.
AB, le sang de Jésus qui où l'hostie s'est transformée dans le sang de Jésus, ce sang appartient au groupe AB et que la chair appartient à un cœur humain en détresse, qui pourrait être celui que les évangiles nous présentent au moment de la passion de Jésus. Le stress, la détresse, le saignement, la sueur de sang qu'il a éprouvé dans le Gethsémani. Alors, Carlo, qui savait que dans l'hostie il y a la présence réelle de Jésus, voulait transmettre cette information au monde entier. Et sa maman ajoute que il y a eu une époque où l'Eucharistie était sous-estimée parce qu'il suffisait de communier une fois par an. Mais que probablement le Seigneur a donné à Carlo la mission de faire connaître l'Eucharistie dans ce monde de plus en plus éloigné de Dieu pour le ramener vers l'Eucharistie parce que c'est le temps de l'Eucharistie.
Alors, le temps passe très très vite. J'amènerai nos auditeurs à découvrir dans votre livre quels miracles ont été choisis pour sa béatification et sa canonisation. C'est évidemment bouleversant. Une chose encore néanmoins qui m'a beaucoup touchée, j'ai l'impression que Carlo est toujours avec sa maman. Ils sont ensemble. Elle lui a dit qu'elle allait avoir d'autres
Exact.
enfants après sa mort. Elle en parle, il est vraiment avec elle.
Exactement. Alors, avant de mourir sur son lit de mort à l'hôpital, quand sa maman avait bien compris qu'il n'y avait plus rien à faire, Carlo l'a rassurée et lui a dit qu'il sera toujours à ses côtés, qu'il lui donnera beaucoup de signes. Et ce qu'il a fait tout de suite, parce que sa maman, à 43 ans, souhaitait avoir d'autres enfants pour remplir un peu le vide laissé par sa mort, il était fils unique. Et Carlo lui a paru un rêve, il lui a promis, il lui a prédit qu'elle serait restée enceinte, et ce qui s'est vérifié quelques mois après. Et donc, à 44 ans, elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et l'accouchement était prévu pour le 11 octobre, le jour de la mort cérébrale de Carlo. Et donc, elle n'a pas de doute qu'il s'agisse vraiment d'une apparition, un rêve de Carlo. Mais après, elle raconte que Carlo l'a aidée. Et il l'a vu plusieurs fois et est toujours à ses côtés. Donc c'est sa maman même qui nous rassure que Carlo est à côté de sa maman, mais il est aussi à côté de tout ce qui le prie, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des personnes qui ne le connaissaient, auxquelles il est apparu un rêve et qui ont reçu de grandes grâces de guérison et de conversion.
Oui. Écoutez, merci beaucoup Patricia, c'était très intéressant. J'invite vraiment nos auditeurs à acheter votre livre, Saint Carlo Acutis, l'influenceur de Dieu, aux éditions Résiac, je le montre. Voilà, offrez-le, lisez-le, je vous assure, c'est édifiant. Patricia, merci beaucoup, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de l'infestation diabolique.
Volontiers, merci à vous
Merci
et à
beaucoup.
tous les auditeurs.
Bonne semaine.